Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin et Michel Leduc. Harry Bernas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien nucléaire, directeur de recherche émérite au Centre des sciences nucléaires et des sciences de la matière au CNRS, Université Paris-Saclay. Vous étiez venu en 2017 à l'antenne de l'Union rationaliste parce que vous aviez publié avec la sociologue Nadiezhda Kutepova un remarquable article sur Mayak, cette ville de l'Oural où se tient un immense complexe nucléaire depuis 70 ans et où le pouvoir organise et planifie, on pourrait dire, le silence, le secret, la dissimulation. Vous êtes membre de l'Union rationaliste et depuis des années maintenant, vous travaillez sur la question de la culture de l'ignorance et de la place des scientifiques et de leur responsabilité dans la cité. Vous venez de publier un très beau livre aux éditions du Pommier, L'île au bonheur, dont le sous-titre est « Homme, atome et cécité volontaire ». Alors peut-être un mot, Harry Bernas, je vous prie, sur ce titre poétique et polémique.
Oui, c'est tout à fait ça. Une toute petite correction, je ne suis pas physicien nucléaire, en fait, je suis physicien des matériaux, ce que entre nous on appelle physicien des solides. Il se trouve que j'ai, pendant toute ma carrière, été en interaction très étroite, parce que j'utilisais des techniques semblables aux leurs, avec des physiciens nucléaires, donc je les ai beaucoup fréquentés. J'ai été directeur d'un laboratoire où il y avait 50% de physiciens nucléaires. Donc c'est un monde que je connais bien, c'est une problématique que j'ai pas mal fréquentée, en particulier en ce qui concerne les matériaux du nucléaire. Et donc j'ai quelques connaissances dans ce domaine-là.
Pardon pour cette erreur.
Je ne suis pas à proprement parler
physicien nucléaire. Merci voilà. de le préciser. Un mot sur le titre de votre ouvrage.
Initialement, le livre que j'ai mis simplement 10 ans à écrire.
Ouais.
Le livre a commencé par être à l'occasion de la tragédie de Fukushima, une réflexion sur quelle était la nature du désastre. On avait parlé de catastrophe naturelle. La nature ne vit pas sous forme catastrophique. Elle vit sa vie et ça n'a rien à voir avec la nôtre. La catastrophe, c'est nous. Et en particulier quand on installe des réacteurs nucléaires sur des failles sismiques, on se prépare à avoir une catastrophe. On pourra toujours la baptiser nucléaire naturelle, mais elle n'a rien de naturel, elle est tout à fait humaine. Mmh. Et la cécité volontaire, elle intervient quand on fait ce genre, je vais pas appeler ça un faux pas, disons
une erreur.
Une erreur qui a un caractère assez délibéré, comme l'a montré toute l'histoire du nucléaire japonais en particulier, dont je parle assez longuement dans le livre.
Oui.
La raison du titre Île au bonheur, c'est que Île au bonheur, en japonais, ça se dit Fukushima.
Bien sûr. Donc évidemment, Fukushima, comme avant Hiroshima, est au cœur de votre expérience et de votre horizon réflexif. Alors, peut-être un mot sur le petit gamin new-yorkais que vous étiez.
Oui, il se trouve que j'ai été élevé à New York et j'ai eu un jour la possibilité d'entendre directement, dans une interruption des informations, une interruption d'une émission que j'écoutais, une émission pour les gamins d'ailleurs, Truman, le président Truman, dire qu'une bombe énorme avait anéanti Hiroshima.
Oui.
Et d'un même souffle, il a ajouté que c'était une grande victoire de la science. Et ça, c'est le genre de question qui, quand on a 8 ou 9 ans, comme c'était mon cas, on ne réalise peut-être pas tout à fait, mais c'est quelque chose qui, après, pendant des années, reste quelque part dans un coin de son cerveau et vous marque. Et en fait, c'est une question que j'ai retrouvée au fil de toute ma vie, en fréquentant, en devenant physicien, en fréquentant par une suite de hasards, quelquefois par hasard, quelquefois de manière délibérée, des participants à cet extraordinaire développement de la physique, et en particulier de la physique nucléaire, à partir des années 45. Et donc, disons, c'est assez compréhensible, je pense, que ça m'ait marqué, que j'ai continué à m'y intéresser, surtout quand, pendant des années, il y a eu ce combat contre la bombe atomique, et un combat qui ne devrait pas avoir cessé aujourd'hui.
Oui. Alors, votre position sur le nucléaire, qui parcourt l'intégralité de votre livre, qui est à la fois un savant mélange de réflexions personnelles, hein, une biographie intellectuelle, et puis des analyses scientifiques. Dans votre livre, vous avez, vis-à-vis du nucléaire, une position à la fois nuancée et extrêmement intéressante. Vous dénoncez de façon virulente les désastres liés au nucléaire, la cécité ou l'aveuglement des politiques et vis-à-vis du nucléaire. Et en même temps, vous dites aussi l'importance pour la recherche scientifique des travaux sur l'armement, par exemple.
Le nucléaire est tout à fait... C'est une aventure scientifique, évidemment, mais c'est en même temps une science. Ça a été la première. Je pense que, d'après moi, toutes les autres ont suivi depuis. Ça a été la première science qu'on pourrait appeler une science politique. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce qui a déterminé, y compris du point de vue de la technologie, notamment du nucléaire civil, mais pas évidemment du nucléaire militaire.
Oui.
Ce qui a déterminé jusqu'à la technologie, c'est certainement l'évolution, l'ampleur des efforts qui ont été faits, etc., le nombre de gens qui y ont travaillé.
Oui.
C'est essentiellement quelque chose de politique, au moins autant que scientifique, et à certains moments, dans certains moments critiques, davantage politique que scientifique. C'est le cas, par exemple, des développements de réacteurs nucléaires. Ceux que nous connaissons aujourd'hui, mm-hmm, sont issus directement du développement de la technologie. Je parle, hein, je mm-hmm reviens de technologie. Mm-hmm. Cette technologie, fondamentalement, elle est issue des sous-marins nucléaires développés dans les années début des années 50. Et le blocage que ça a constitué est un blocage fascinant à étudier du point de vue historique, parce que à développer cette technologie-là, on n'a pas développé d'autres technologies mm-hmm nucléaires qui étaient en cours de développement. Je parle de réacteurs nucléaires,
oui,
qui étaient en cours de développement et qui auraient peut-être pu, c'est pas une certitude, hein,
mm-hmm,
mais qui auraient peut-être pu être plus sûrs, créer moins de déchets, enfin bon, avoir toutes sortes d'avantages par rapport à ceux que nous connaissons, et on sait pendant 60 ans cadrer complètement sur un type unique, de réacteur nucléaire. Avec un discours sur l'horizon ultime du nucléaire, qui devait avoir des réacteurs d'un type tout à fait différent, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un décalage entre le discours qui se tenait sur l'horizon ultime et la réalité concrète des réacteurs qui ont été mis en place pendant 60 ans.
Donc ce que vous expliquez, c'est que le choix politique de la politique nucléaire aurait dû être bien davantage discuté, et notamment avec les scientifiques.
Oui, des scientifiques, enfin des gens comme Oppenheimer et Fermi et quelques autres gens tout aussi célèbres et aussi compétents, dans les années 50, début des années 60, tenaient un discours qui disait « Il nous faut encore une bonne quinzaine d'années pour savoir quel est le réacteur qui permettrait de développer l'énergie nucléaire de façon à la fois sûre et raisonnable.
Mmh. »
Alors, et ces 15 ans-là, ils manquent toujours.
Oui, oui. Alors, ça m'amène à la question de la responsabilité des scientifiques dans la société. Ne sont-ils pas assez écoutés? Sont-ils parfois sollicités à titre d'experts, puis relayés dans certaines étagères? Quel est votre sentiment là-dessus?
Ouais. De ce point de vue-là aussi, le nucléaire, c'est absolument fascinant parce que il a joué un rôle d'entraînement pour toute l'activité scientifique. À partir de 45-46, si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a eu un rapport demandé par Roosevelt avant même la fin de la guerre, un grand ingénieur qui s'appelait Bush, mais qui n'avait rien à voir
avec
la famille
George.
Bush ultérieure. qui disait « il faut que la science infuse la société
mmh. ».
En gros, c'était ça son thème. Le rapport s'appelait « La science, c'est la frontière ultime », quelque chose comme ça. Et donc l'idée, c'était il faut développer de manière massive le nombre de scientifiques.
Mmh.
Et aux États-Unis, on est passé par exemple, avant la guerre, il devait y avoir quelque chose comme 3000 scientifiques, en tout cas au niveau des sciences dures, disons, aux États-Unis, dans les années 70, il y en avait 300 000. Donc, il y a eu un développement absolument phénoménal,
mm-hmm.
poussé par un financement qui était encouragé par Bush dès le départ, en disant « il faut absolument que ça soit tout à fait lié, que les problèmes de la défense et de la défense nationale des États-Unis, dans un contexte où la guerre froide s'annonçait à l'horizon, il faut que ça soit dans une certaine symbiose, disait-il, avec la défense. Et donc la défense a contribué pour 95-98% au financement de toutes les sciences américaines dans les années 60, ça mmh. n'est jamais descendu en dessous de 50%, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Il y a des domaines dans lesquels c'est 80%, en particulier en physique.
Mmh.
Et il y a donc cette idée que les scientifiques, il faut en former un grand nombre, et il faut qu'ils rentrent dans l'industrie, il faut qu'ils rentrent dans le commerce, il faut qu'ils rentrent dans tous les
secteurs
sensibles mmh. et les vecteurs de la société. Oui, absolument. De façon à faire d'abord à augmenter les connaissances, mais aussi les méthodes de pensée et de travail des scientifiques qui doivent infuser dans la société, c'est-à-dire en gros à la fois la pensée rationnelle, l'analyse, la capacité à avoir une stratégie porté vers l'avenir et pas uniquement basé sur l'expérience immédiate ou sur le passé, etc., etc. Et ça a été une réussite absolument phénoménale d'un mm-hmm. certain point de vue. Les 30 glorieuses dont on parle toujours,
oui.
Elles ont été faites largement de ça. Il s'est simplement trouvé que c'était dans un système qui était un système capitaliste destiné à faire du profit, etc., et que ça a été marqué par les éléments de l'optimisme technologique pour le profit, etc., etc.
Justement.
Société dans laquelle on vit toujours et dont on voit l'état de pourrissement actuel qu'elle a entraîné à l'intérieur du système scientifique.
Oui, justement, donc, justement.
Il y a un mouvement global, si vous voulez, où la science a été un facteur de développement phénoménal et où aujourd'hui elle se trouve un peu à la traîne d'un système qui est en train de pourrir doucement et qui commence très efficacement par pourrir la science elle-même.
Alors, justement, quel serait votre message vis-à-vis des jeunes scientifiques par rapport à vos alarmes face au changement climatique?
Je dirais La première chose, c'est que les jeunes, pas seulement les scientifiques évidemment, mais les jeunes scientifiques parmi eux, et évidemment un certain nombre d'entre eux, ils sont beaucoup plus sensibles parce qu'ils ont ils ont acquis des connaissances qui leur permettent de rentrer un peu dans le concret fondamental de ces changements. Le changement climatique, on le vit, c'est pas une affaire qui va se produire, c'est une affaire dans laquelle on est déjà, et les scientifiques, les jeunes scientifiques sont en nombre croissant de plus en plus sensibles à ça, et en nombre agissant de plus en plus de ce côté-là, et ça c'est absolument vital, c'est absolument vital. Les changements vont être des changements objectifs, on pourra raconter ce qu'on voudra, on pourra faire la propagande et du lobbying, pour ralentir le mouvement, y compris au plus haut niveau de l'État, ça se produit de fait. Et donc, dans la pratique concrète quotidienne et dans la souffrance quotidienne, c'est quelque chose qui se manifeste de plus en plus. Le résultat, ce que je suis en train de dire, c'est en gros, les changements de nature objectifs, les changements de la planète et les changements sociaux vont de pair.
Bien sûr.
Il faut que ça continue comme ça, mais d'un point de vue positif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à l'intérieur du mouvement social une très forte composante qui permette d'avancer sur le terrain du changement climatique. Et ça, c'est une véritable, c'est un changement dans le
impérieux, nécessaire. C'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Harry Bernas, je vous remercie. Auditeurs de France Culture, au dernier numéro de Raison Présente dans lesquels Harry Bernas a écrit, le numéro 225 de Raison Présente, Science, Armement et Société, et le numéro 206 dans lequel Harry Bernas a écrit Qu'as-tu vu à Fukushima ? Je renvoie aussi les auditeurs de France Culture au site de l'Union Rationaliste dans laquelle ils pourront écouter et voir la carte blanche d'Harry Bernas sur nucléaire et politique. Je remercie à France Culture Alex Dang, Luc-Jean Reynaud et Claire Poinsignon et je vous dis au mois prochain.